Alors, vous nous avez parlé de Le Corbusier, je crois, la dernière fois. Vous allez nous parler, je crois, de Matisse aujourd'hui.
Je vais vous parler de Henri Matisse et de la joie de peindre. Après ce texte pas très joyeux, finalement, de Thierry.
Oh, pas si triste non plus.
Non, mais bon. Je vais parler de quelque chose de très différent, quand même. Donc, c'est une nouvelle rencontre autour de l'histoire de l'art avec les auditeurs de la radio Neptune. Et je propose donc de continuer dans nos lectures des écrits d'artistes, les artistes qui, tout au long du XXe siècle, s'expriment beaucoup sur leur art, comme si toutes ces révolutions artistiques qui secouent la peinture ou encore l'architecture dans la période contemporaine avaient besoin d'être expliquées au public. Et parmi ces grands créateurs qui chamboulent les codes esthétiques au début du XXe siècle, nous trouvons Henri Matisse. Je pense que c'est un nom qui n'est pas inconnu à nos auditeurs. Henri Matisse était un peintre français, né en 1869 et mort en 1954. Et c'était le grand inventeur du fauvisme. Et donc je vous propose aujourd'hui de lire et de commenter quelques textes. Je vais d'abord parler de l'invention du fauvisme, qui est une expérience vraiment importante dans la vie de Matisse et dans l'art du XXe siècle en général. Matisse se met à peindre relativement tard. Il a une trentaine d'années lorsque Paul Signac l'initie au néo-impressionnisme. Mais c'est en 1905 que son style mûrit. Il passe l'été à Collioure, en compagnie d'André Derain, et c'est là que sa palette explose. Ses tableaux, loin de respecter les principes contraignants du néo-impressionnisme, deviennent très expressifs. Et Matisse écrit: le choix de mes couleurs ne repose sur aucune théorie scientifique. Il est basé sur l'observation, sur le sentiment, sur l'expérience de ma sensibilité. C'est important de le souligner, puisque le néo-impressionnisme était justement un courant artistique, un style, véritablement, qui cherchait à faire quelque chose de solide de l'impressionnisme, et donc les artistes étudiaient les théories de la couleur, vraiment les théories scientifiques. Donc Matisse est complètement dans le refus de ces recettes très contraignantes. Et donc de retour à Paris, Matisse expose avec Derain, Vlaminck et quelques autres peintres au Salon d'automne. Ce salon est organisé depuis 1903 pour faire découvrir les jeunes talents parmi les peintres, sculpteurs, photographes, graveur. C'est un salon assez interdisciplinaire, ou pluridisciplinaire en tout cas. Et c'est là que le critique d'art Louis Vauxel entre dans la salle numéro 7, où sont précisément accrochés les tableaux très colorés de Matisse et de ses jeunes disciples, autour de deux sculptures plutôt classiques d'Albert Marc. Et Louis Vauxel, en voyant cela, s'exclame: « Donatello parmi les fauves !» Donatello, c'est l'allusion aux sculptures. Elle est fauve, c'est évidemment le terme qui désigne désormais ces peintures de couleurs violentes, pures, arbitraires, qui donc ne traduisent pas la réalité, mais la vision de cette réalité par le peintre. Bref, ces couleurs qui semblent agresser l'œil du spectateur. Mais il ne faut pas penser que l'art de Matisse est un art tourmenté, agressif. Bien au contraire. Si ses contemporains où certains de ses contemporains lui reprochent une palette trop contrastée, Matisse est loin d'un Vincent Van Gogh ou d'un Edvard Munch en ce qui concerne l'effet souhaité par le peintre. Matisse écrit: « Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit pour tout travailleur cérébral, pour l'homme d'affaires aussi bien que pour l'artiste des lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues physiques. » Alors il peut paraître étonnant qu'un peintre compare ses tableaux à un fauteuil confortable, car on peut penser qu'il y a quelque chose de dévalorisant dans cette comparaison. Mais pour Matisse, il s'agit en fait d'insister sur le caractère joyeux de sa peinture. Les sujets que Matisse traite dans ses œuvres tournent souvent autour de la joie de vivre. Nature morte avec table servie, fleurs, vue de son atelier rempli de coupes de fruits et d'aubergines, les intérieurs lumineux avec les bocaux de poissons rouges, jardins et vérandas luxurieux, plages ensoleillées avec bateaux, personnages qui dansent ou jouent de la musique. Pour Matisse, il est vraiment important que ces tableaux contiennent aussi une dimension décorative très forte. C'est pourquoi il a recours régulièrement à l'arabesque, qui souligne les formes colorées. Ainsi, il veut exprimer ses sentiments, sa joie de vivre. Voici ce que Matisse écrit. Ce que je poursuis, par-dessus tout, c'est l'expression. L'expression, pour moi, ne réside pas dans la passion qui éclatera sur un visage ou qui s'affirmera par un mouvement violent. Elle est dans toute la disposition de mon tableau. La place qu'occupent les corps, les vides qui sont autour d'eux, les proportions, tout cela y a sa part. La composition est l'art d'arranger de manière décorative les divers éléments dont le peintre dispose pour exprimer ses sentiments. Dans un tableau, chaque partie sera visible et viendra jouer le rôle qui lui revient, principal ou secondaire. Tout ce qui n'a pas d'utilité dans le tableau est par là même nuisible. Un œuvre comporte une harmonie d'ensemble, tout détail superflu prendrait dans l'esprit du spectateur la place d'un autre détail essentiel. C'est un propos très intéressant de Matisse qui nous permet d'évoquer son influence sur l'art de son temps. Matisse écrit ses phrases en 1908, au moment où son travail devient vraiment connu, non seulement en France, mais aussi en Allemagne, grâce aux expositions organisées à Berlin et ailleurs. Et à cette époque, l'art moderne allemand est en train de se cristalliser. À Dresde, quelques jeunes artistes réunis dans le groupe Die Brücke pratiquent une peinture de plus en plus riche en couleurs. Leurs modèles sont Gauguin et Van Gogh. Tandis qu'à Munich, le russe Vassili Kandinsky s'écarte de la peinture symboliste et s'engage peu à peu sur la voie de l'abstraction. On désigne cet art moderne allemand, stylistiquement très riche et très contrasté, par le terme « expressionnisme ». Et on pense que ce mot trouve ses sources dans la fameuse expression que Matisse dit de poursuivre par-dessus tout. Matisse est bien sûr très admiré par les artistes allemands, même si certains d'entre eux ne veulent pas l'admettre, car sa palette libérée de toute contrainte imitative montre la voie d'une peinture subjective par excellence. Toutefois, en avançant dans le temps, on s'aperçoit que l'art allemand est bien plus tourmenté que l'art de Matisse, qui semble au contraire résister à l'agressivité du monde environnant. Les artistes expressionnistes réagissent au contraire à leur époque. Leurs tableaux sont investis par des sujets de plus en plus inquiétants, dirait notre peintre français, et arrivés à la fin des années 1910, ils n'ont plus rien à voir avec l'univers lénifiant et calmant de Matisse. Donc c'est tout à fait intéressant de voir comment un mot lancé par Matisse, cette fameuse expression, pouvait recevoir une signification totalement différente dans le contexte allemand donc de celle que son auteur lui donnait à l'époque. D'ailleurs, il existe une différence notable dans la manière de peindre entre Matisse et les artistes comme Kirchner, par exemple. Matisse dit « Je veux arriver à cet état de condensation des sensations qui fait le tableau. Je pourrais me contenter d'une œuvre de premier jet, mais elle me laisserait de suite, et je préfère la retoucher pour pouvoir la reconnaître plus tard comme une représentation de mon esprit. » Matisse est donc un peintre lent, un peu comme Cézanne qui faisait poser ses modèles pendant des heures et des heures. On connaît par exemple ce travail presque sisyphien de Matisse sur son tableau « La blouse romaine », sur lequel il efface tous les soirs l'image peinte dans la journée, pour recommencer le lendemain. A contrario, les artistes du groupe Die Brücke prennent la spontanéité du geste et s'exercent à peindre sur un modèle vivant qui change de position toutes les 5 minutes. Le tableau doit être peint à chaud pour être un reflet de l'authenticité de l'expérience artistique.
Je souhaiterais savoir... Oui, Francesa, oui, je m'attendais à ce que vous interveniez, puisque vous êtes une spécialiste, malgré tout, des arts plastiques et de la peinture.
Quand même. Ne soyez pas si modeste, un intérêt Francesa. Pour la peinture. Non, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vient de dire, voilà, tout à fait, notre partenaire de ce soir, c'est pourquoi vous insistez sur ce parallèle entre Matisse et les peintres allemands de Die Brücke. Pourquoi ?
Parce qu'au départ, il y a vraiment un regard de ces artistes vers Matisse. Mais très souvent inavoué. Par exemple, Kirchner antidate ses tableaux. Antidate ses tableaux pour qu'on ne puisse pas l'accuser de d'imiter ou de copier Matisse.
D'accord. Et Est-ce que vous pouvez parler aussi un peu du mouvement que l'on trouve dans la peinture de Matisse?
Oui, je vais parler de la danse aussi.
On en parle tout à l'heure, on va peut-être écouter un petit peu de musique, parce qu'il se trouve qu'il y a d'ailleurs une œuvre de Matisse qui s'appelle La Musique, je crois.
Oui,
il y a deux grands tableaux, immenses, en rouge et vert, un qui est la danse et l'autre qui est la musique. Et la musique est statique et la danse est en mouvement.
Bien écoutez, on ne va pas écouter une musique très statique, vous allez reconnaître tout de suite. Ce n'est pas l'époque de Matisse, mais c'est très bien quand même. Vous avez reconnu, hein, bien évidemment, Duke Ellington. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec Matisse, mais c'est vrai que c'est quand même assez joyeux. Et puis Matisse, c'est quand même très joyeux, moi, je trouve.
Alors, je vais justement continuer dessus.
Oui, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en direct de Radio Neptune sur le 95FM, en compagnie de tous nos chroniqueurs habituels, et de Sonia Depuyneuf, qui est conférencière en histoire de l'art, et qui nous parle ce soir de Matisse. Nous continuons.
J'ai donc parlé de l'invention du fauvisme. Maintenant, il faudrait évidemment se pencher un petit peu sur ce que Matisse pouvait faire au-delà de cette expérience de jeunesse. Et je dirais que Matisse a été toute sa vie préoccupé par la quête d'une peinture pure, qui ne serait rien d'autre que la peinture précisément. En 1939, il écrit « J'ai répondu à quelqu'un qui disait que je ne voyais pas les femmes comme je les représentais. Si j'en rencontrais de pareilles dans la rue, je me sauverais épouvantée. Avant tout, je ne crée pas une femme, je fais un tableau. » Et ceci est un propos assez humble et en même temps très lucide. Il illustre bien le rapport que Matisse peut entretenir avec la réalité et quelle opinion il peut avoir au sujet de la peinture qui imite la nature. Qu'est-ce que la nature? Ce que l'œil voit ou ce que l'âme ressent? Matisse confie à Louis Aragon, à 1940. Ne vous y trompez pas. Je ne veux pas dire que, voyant l'arbre par ma fenêtre, je travaille pour le copier. L'arbre, c'est aussi tout un ensemble d'effets qu'il fait sur moi. Il n'est pas question de dessiner un arbre que je vois. J'ai devant moi un objet qui exerce sur mon esprit une action, pas seulement comme un arbre, mais aussi par rapport à toutes sortes d'autres sentiments. Pour Matisse, l'exactitude n'est pas la vérité. On comprend donc bien désormais cette liberté que s'accorde l'artiste dans la représentation du monde. Dans ses œuvres, il cherche à le rendre conforme à ce qu'il ressent. L'arabesque décorative et la couleur libérée de la contrainte imitative s'expliquent aussi par cette quête de l'harmonie d'émotion. Ainsi, Matisse se voit sollicité à intervenir à grande échelle comme peintre décorateur. Tout au début des années 30, c'est le collectionneur américain Barnes qui lui demande de décorer une partie de la grande salle de sa fondation à Merion, donnant sur un jardin par 3 portes vitrées. Et donc c'est là que Matisse choisit le thème de la danse, qui le préoccupe justement depuis de longues années, mais qu'il traite ici en un nombre limité de couleurs. Les bandes rose pâle, bleu et noir se croisent de manière rythmique, faisant ressortir les corps stylisés de danseuses gris-perles. C'est une harmonie sobre dont Matisse fait le choix, précisément pour ne pas entrer en conflit avec les couleurs lumineuses du jardin. Le résultat plut au mécène qui déclara « Maintenant, on appellerait volontiers cet endroit une cathédrale. Votre peinture est comme la rosace d'une cathédrale. » Même si certainement sur les rosaces des cathédrales, nous ne voyons pas la danse, hein, comme dans la peinture de Matisse. Dans le regard du public qui commence à s'habituer à la peinture de Matisse et qui commence aussi à l'aimer, l'art de Matisse semble donc investi d'une certaine religiosité. Ceci n'est pas tout à fait faux. Matisse n'avoue-t-il pas de lui-même qu'il veut exprimer le sentiment, pour ainsi dire religieux, qu'il possède de la vie? Ou, bien plus tard, ne dit-il pas « tout art digne de ce nom est religieux » C'est alors qu'à la fin de sa carrière, Matisse accepte de travailler sur une chapelle chrétienne, la chapelle du Rosaire des Dominicains de Vence. Inaugurée en 1951, cette petite architecture est comme aboutissement d'une vie de travail et la floraison d'un effort énorme, sincère et difficile. Ce sont les mots de Matisse qui l'écrit de cette manière. Matisse conçoit sa forme et sa décoration tout entière. Les murs sont couverts de panneaux de céramique blanche avec dessins noirs filiformes, tandis que les vitraux resplendissent des couleurs éclatantes, bleu outre-mer, vert bouteille et jaune citron. Il y a là aussi un peu de mouvement dans ce frémissement de couleurs. L'exécution de cette œuvre totale ou synthétique n'est pas simple. Matisse est déjà vieux et fatigué, il peint appuyé contre une chaise. Pour les motifs végétaux abstraits des vitraux, il s'inspire de la technique des papiers découpés qu'il met au point dans ses dernières années de sa vie. Le résultat est reconnu à l'unanimité comme un véritable chef-d'œuvre. Et Matisse lui-même en est satisfait. Il confie « J'ai traversé la vie comme un homme pressé, traqué. Un jour, Picasso m'a dit une chose très bien. Il m'a dit « Nous devons travailler comme des ouvriers ». Mais pour la chapelle, ce n'était plus cela. Tout est venu d'ailleurs, de plus haut que moi. » Ce sont les propos de Matisse, artiste mûr, qui n'a plus rien à démontrer dans la peinture, tant son influence sur la jeune génération est connue et reconnue. Il n'a pas peur d'affirmer que l'inspiration peut venir d'ailleurs, qu'une idée soudaine et presque étrangère peut éclairer un artiste, aussi grand qu'il soit. Il n'y a qu'un seul génie en France qui peut concurrencer Matisse, c'est bien évidemment son ami et rival de toujours, Pablo Picasso. Et celui-ci répond en décorant le vestibule attenant à la chapelle du château de Valoris. Et ça sera son temple de paix.
Les papiers découpés parce que à la fin de sa vie, Matisse avait les mains tellement déformées qu'il ne pouvait pas tenir ses pinceaux. Oui. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a une création nouvelle, un jaillissement à partir d'un handicap.
C'est très beau d'ailleurs de voir Matisse qui a été filmé avec des grands ciseaux et qui coupe directement dans les papiers sans qu'il ait tracé un trait.
J'espère que c'est valable pour les pianistes aussi.
Ah bon, d'accord, à voir.
C'était André Lesquer. André, au demeurant, nous étions ensemble au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Oh, oui. Il y a une salle énorme sur Matisse qui est magnifique.
Ouais, c'est magnifique.
Sonia, vous l'avez visité, je pense.
Moi, non, malheureusement, je suis toujours pas allée à Saint-Pétersbourg.
Ah,
mais sans doute, je ne sais pas si c'est du coup à l'Ermitage hein, qu'il y a justement cette danse qu'il
peint pour
Schubert et la musique.
Hein. Oui, seulement là, les tableaux ont été présentés face à face de chaque côté de la salle. Or, initialement, il fallait présenter hein, les deux tableaux en angle. Mm-hmm. C'est ce que Matisse avait voulu. Et dans le nouvel accrochage, bon, ceci n'a pas été respecté. Ouais.
Voilà, alors Matisse, eh bien, j'espère que tout le monde ira voir à l'occasion des différents musées, que ce soit l'Ermitage, que ce soit le Louvre, le Prado, etc.
Oui, ou même, alors en ce qui concerne justement cette danse de la Fondation Barnes, en fait, il se trouve que Matisse, quand il la faisait, quand il préparait ses toiles, il s'est trompé de côte. Et du coup, on a deux versions, une qui finalement est restée à Paris, donc elle est visible dans une grande salle au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, face d'ailleurs à une œuvre de Daniel Buren. Et donc après l'autre, celle qui a été finie pour Barnes, elle est visible donc à la Fondation à Mérion.
Merci Sonia.